Chapitre 2. Le début de ce chapitre montre comment Dieu peut employer les grands de la terre, à leur insu, pour l'accomplissement de ses desseins. Le cas dont il s'agit ici est d'autant plus remarquable que le décret d'Auguste ne fut pas exécuté immédiatement, mais fut différé jusqu'à l'époque où Cyrénius eut le gouvernement de la Syrie. La prophétie avait, cependant, indiqué que le Messie devait naître à Bethléem, et le décret de l'empereur arrive au moment propice pour faire monter Joseph et Marie à Bethléem, quoiqu'un retard intervint par la suite pour le recensement lui-même. C'est sans doute à cause de cet état de perturbation que l'hôtellerie était pleine. Le fait que le Christ est né dans une étable témoigne de la pauvreté de Joseph et Marie, l'argent pouvant toujours, hier comme aujourd'hui, parer au manque de confort. Toutefois, c'est un symbole de la place extérieure au monde et à sa gloire que Christ allait occuper dès le début. Les versets 8 à 20 s'occupent de l'épisode relatif aux bergers. Nous connaissons si bien ces fêtes, par les cantiques et les chants de Noël, que nous courons peut-être le danger de ne pas en saisir toute l'importance. Garder les troupeaux n'était pas une occupation très prisée en ces temps-là. Et les bergers qui gardaient les troupeaux pendant la nuit n'avaient pas la compétence de ceux qui s'en occupaient dans la journée. C'est à ces gens humbles et ignorés à l'extrême que les anges apparaissent. Le secret du ciel concernant l'arrivée du Sauveur est dévoilé à des gens aussi insignifiants que ceux-ci. Cela paraît encore plus extraordinaire lorsque nous comparons ce chapitre avec Matthieu 2. Dans l'évangile de Matthieu, la scène se passe parmi les grands de Jérusalem. Le roi Hérode, ses courtisans, les souverains sacrificateurs et les scribes, mais tout ceci ignore complètement ce merveilleux événement pendant des mois, et encore n'en entendent-ils parler que par les mages de l'Orient qui arrivent à Jérusalem, personnages totalement étrangers à la nation d'Israël. L'explication nous en est donnée par les paroles du psalmiste « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent » Psaume 25, verset 14. Dieu ne fait pas exception de personne, mais il a égard à ceux qui sont humbles et intègres de cœur devant lui. Aussi ne tient-il pas compte des grandes Jérusalem, et il dépêche des anges vers ces bergers méprisés qui gardent leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit pour leur faire connaître le secret des voies divines. Ces quelques bergers faisaient partie du résidu pieux qui attendait le Messie, comme nous le montrerons par la suite leurs paroles et leurs actions. D'abord vient le message de l'ange, et ensuite la louange de l'armée céleste. Si le message était un grand sujet de joie, c'est parce que le Messie venait comme sauveur. Les Israélites avaient eu le législateur et les prophètes, mais maintenant était venu le sauveur, et un sauveur si grand que c'était le Christ, le Seigneur. Cette bonne nouvelle est pour tout le peuple. Pour le moment, elle ne s'adresse pas au-delà du peuple d'Israël. Le signe annonçant cet événement extraordinaire est tel que personne n'aurait jamais pu le concevoir. Les hommes auraient pu s'attendre à voir un puissant homme de guerre assis sur un trône en tenue d'apparat. Le signe est un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais c'est un signe annonçant de quelle manière et dans quel esprit le Seigneur allait maintenant s'approcher des hommes. Les louanges des anges, rapportées au verset 14, ne sont exprimées qu'en peu de mots, des mots lourds de sens. Ils rapportent les ultimes conséquences qui devaient découler de l'arrivée de ce petit enfant. Dieu sera glorifié dans les lieux très hauts, centre de sa puissance, l'endroit même où le plus léger discrédit jeté sur son nom serait le plus vivement ressenti. Sur la terre, où depuis la chute, guerre et querelle ne cessent pas, la paix sera établie. Dieu trouvera son bon plaisir dans les hommes. Depuis le moment où le péché est apparu, Dieu n'a trouvé de plaisir ni en Adam, ni en sa descendance. Mais voici maintenant celui dont la nature humaine est d'un autre ordre que celle d'Adam, grâce à sa naissance miraculeuse, ce qui a été clairement exposé au premier chapitre. En lui, le bon plaisir de Dieu repose au suprême degré, comme aussi il reposera dans les hommes qui sont en lui, comme fruit de son œuvre. Conséquence merveilleuse, en vérité. À tout ceci, les bergers donnent la réponse de la foi. Ils ne disent pas « Allons et voyons si cette chose est arrivée », mais « Voyons cette chose qui est arrivée ». Ils s'en vont en hâte et voient le petit enfant de leurs yeux. Puis ils rendent témoignage à d'autres. Ils peuvent alors dire « Dieu l'a dit et nous l'avons vu ». Ils divulguent ce que le Seigneur a fait connaître et ce dont ils ont été personnellement témoins. Un tel témoignage ne peut qu'avoir de l'effet. Beaucoup s'étonnent et Marie garde ces choses par-devers elle, les repassant dans son esprit. Car il est clair qu'elle-même ne comprend pas encore toute la portée de ces événements. Quant aux bergers, à l'instar des anges, ils glorifient et louent Dieu. Ainsi, en cette grande occasion, la louange éclate aussi bien sur la terre qu'au ciel. Et ne pouvons-nous pas penser que, dans la louange de ces humbles hommes d'ici-bas, se trouvait une note qui manquait à la louange des anges de sa force au ciel. Au verset 21 à 24, il nous est donné de voir que tout ce que la loi ordonnait a été accompli à l'égard du Saint-Enfant. Lorsque celui-ci est présenté au Seigneur dans le temple, il y a là pour l'accueillir, guidé par l'Esprit de Dieu, deux vieillards qui marchent dans la crainte du Seigneur. Nous avons remarqué dans un paragraphe précédent comment les grands de Jérusalem étaient absolument étrangers aux pensées de Dieu et n'avaient aucune connaissance de lui. À l'opposé, il y avait ceux qui avaient des relations avec lui, et eux furent bientôt au courant de la grande nouvelle, même si aucun ange ne leur apparut. Le Saint-Esprit est sur Siméon, et, par l'Esprit, non seulement il sait qu'avant de mourir il verra le Christ du Seigneur, mais, en outre, il arrive au temple au moment précis où l'enfant Jésus y est. C'est également ce qui se passe pour Anne. L'heure de sa visite est dirigée d'en haut, si bien qu'elle voit le Seigneur. En lisant les versets 28 à 35, nous ressentons combien cette scène a dû être émouvante. Le vieillard s'adresse à Dieu, puis à Marie. Il est maintenant prêt à partir en paix, car il a vu le salut du Seigneur dans le Saint-Enfant. En fait, il va plus loin que l'ange, car il reconnaît que le salut de Dieu a été préparé devant la face de tous les peuples. Cette fois-ci, le mot « peuple » est au pluriel. Non seulement Jésus allait être la gloire d'Israël, mais aussi une lumière pour éclairer les gentils. À Siméon est révélé que la grâce allait se répandre au-delà des étroites limites d'Israël. Il lui est aussi révélé que le Christ est venu pour être un signe que l'on contredira. C'est peut-être indistinctement qu'il la voyait, mais elle était bien là, l'ombre de la croix, lorsque l'épée transpercerait l'âme de Marie, ce que nous apprenons par les paroles de Siméon à Marie. Peut-être nous étonnons-nous que Siméon, à qui il avait été accordé de vivre jusqu'à ce que, effectivement, il tienne le Sauveur dans ses bras, soit si disposé à s'en aller en paix. Nous aurions pu nous attendre à ce qu'il ait ressenti une cruelle déception. Il voyait comment Dieu commençait à intervenir, et pourtant il lui fallait quitter cette scène avant que se termine cette intervention. Mais manifestement, il lui est donné, comme prophète, de prévoir que le Christ serait rejeté. Aussi n'attend-il pas la gloire dans un proche avenir, et il est prêt à s'en aller. Il annonce que l'enfant mettrait Israël à l'épreuve. Beaucoup, qui étaient haut élevés, tomberaient, et ceux qui étaient abaissés et méprisés se relèveraient. Et comme le Christ connaîtrait la contradiction et serait rejeté, les pensées de plusieurs cœurs seraient révélées au moment où il le rencontrerait. Dans la présence de Dieu, tous les hommes sont obligés de se montrer tels qu'ils sont réellement. Ainsi, ce caractère concernant le Christ est un hommage involontaire à sa déité. De plus, Marie elle-même serait transpercée par la douleur comme par une épée, parole qui trouva son accomplissement alors qu'elle se tenait près de la croix. Anne, très avancée en âge, complète ce très beau tableau du résidu pieux en Israël. Elle servait Dieu continuellement, et quand elle eut vu le Christ, elle parla de lui. Au point où nous sommes parvenus, nous pouvons résumer les caractères marquants de toutes ces âmes pieuses. La conduite des bergers est une illustration de la foi qui les anime. Ils acceptent immédiatement la parole qui leur est adressée par le moyen de l'ange, Puis ce qu'il voit confirme cette parole, et enfin il glorifie et loue Dieu. Marie est une âme portée à revenir et à méditer sur ces choses, pour l'intelligence desquelles elle s'attend à Dieu. Verset 19. Siméon attendait le Christ, instruit par l'Esprit de Dieu et sous sa puissance. Son attente reçoit toute satisfaction lorsqu'il rencontre Christ et il prophétise à son sujet. Anne servait Dieu continuellement et rendit témoignage du Christ dès qu'elle l'eut rencontré. En dernier lieu, un soin extrême fut apporté à l'accomplissement de tous les détails concernant le Christ, comme l'ordonnait la loi du Seigneur. 5 fois, il est déclaré que la loi a été observée. Au verset 22, 23, 24, 27 et 39. Ce trait remarquable doit probablement être attribué à Joseph, le mari de Marie, cette obéissance attentive à la parole de Dieu. Nous-mêmes attendons maintenant la seconde venue du Seigneur. Comme ce serait heureux si nous nous distinguions par ces remarquables caractères. Le verset 40 couvre les 12 premières années de la vie de notre Seigneur. Nous y apprenons que le développement normal du corps et de l'esprit, propre au genre humain, caractérisa aussi le Seigneur. Témoignage à sa vraie humanité. Ceci est encore souligné par ce que nous entrevoyons de lui lorsqu'il avait 12 ans. Il n'enseignait pas les docteurs, mais il les écoutait et les interrogeait de telle sorte que ceux-ci s'étonnaient de ses réponses. Ici encore, nous le voyons montrer à la perfection l'attitude qui convient à un enfant de cet âge, en même temps que des traits surnaturels. La réponse qu'il fait à sa mère montre également qu'il avait conscience de sa mission. Toutefois, pendant de nombreuses années, il allait garder sa position de soumission devant Joseph et Marie, montrant ainsi la perfection de sa nature humaine au cours de cette période de sa vie.